Honoré de Balzac, Pierrette. En octobre 1827, à l'aube, un jeune homme âgé d'environ 16 ans, et dont la mise annonçait ce que la phraséologie moderne appelle si insolemment un prolétaire, s'arrêta sur une petite place qui se trouve dans le bas provins. À 7 heures, il put examiner, sans être observé, les différentes maisons situées sur cette place qui forment un carré long. Les moulins, assis sur les rivières de Provins, allaient déjà. Leur bruit, répété par les échos de la haute ville en harmonie avec l'air vif, avec les pimpantes clartés du matin, accusait la profondeur du silence qui permettait d'entendre les ferrailles d'une diligence à une lieue sur la grand-route. Les deux plus longues lignes de maisons, séparées par un couvert de tilleuls, offrent des constructions naïves où se révèle l'existence paisible et définie des bourgeois. En cet endroit, nulle trace de commerce. À peine y croyait-on alors les luxueuses portes cochères des gens riches. S'il y en avait, elles tournaient rarement sur leurs gonds, excepté celle de Monsieur Martener, un médecin obligé d'avoir son cabriolet et de s'en servir. Quelques façades étaient ornées d'un cordon de vigne, d'autres de rosiers à haute tige qui montaient jusqu'au premier étage où leurs fleurs parfumées croisées de leurs grosses touffes clairsemées. Un bout de cette place arrive presque à la grande rue de la Basse-Ville. L'autre bout est barré par une rue parallèle à cette grande rue et dont les jardins étendent sur une des deux rivières qui arrosent la vallée de Provins. Dans ce bout le plus paisible de la place, le jeune ouvrier reconnut la maison qu'on lui avait indiquée. Une façade en pierre blanche, rayée de lignes creuses pour figurer des assises, où les fenêtres à maigres balcons de fer décorés de rosaces peintes en jaune sont fermées de persiennes grises. Au-dessus de cette façade, élevée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, trois lucarnes de mansarde percent un toit couvert en ardoise, sur un des pignons duquel tourne une girouette neuve. Cette modeste girouette représente un chasseur en position de tirer un lièvre. On monte à la porte bâtarde par trois marches en pierre. D'un côté de la porte, un bout de tuyau de plomb crache les eaux ménagères au-dessus d'une petite rigole et annonce la cuisine. De l'autre, deux fenêtres soigneusement closes par des volets gris, où des cœurs découpés laissent passer un peu de jour, lui parurent être celles de la salle à manger. Dans l'élévation rachetée par les trois marches et dessous chaque fenêtre, se voient les soupiraux des caves, clos par de petites portes en tôle peinte, percées de trous prétentieusement découpés. Tout d'abord, tout était neuf. Mais dans cette maison restaurée, dont le luxe encore frais contrastait avec le vieil extérieur de toutes les autres, un observateur eut sur-le-champ deviné les idées mesquines et le parfait contentement du petit commerçant retiré. Le jeune homme regarda ces détails avec une expression de plaisir mélangée de tristesse. Ses yeux allaient de la cuisine aux mansardes par un mouvement qui dénotait une délibération. Les lueurs roses du soleil signalèrent sur une des fenêtres du grenier un rideau de calicot qui manquait aux autres lucarnes. La physionomie du jeune homme devint alors entièrement gaie. Il se recula de quelques pas, s'adossa contre un tilleul et chanta, sur le ton traînant particulier aux gens de l'Ouest, cette romance bretonne publiée par Bruyère, un compositeur à qui nous devons de charmantes mélodies. En Bretagne, les jeunes gens des villages viennent dire ce chant aux mariés le jour de leurs noces. Nous venons vous souhaiter bonheur en mariage à monsieur votre époux, aussi bien comme à vous. On vient de vous lier, madame la mariée, avec un lien d'or qui ne délie qu'à la mort. Vous n'irez plus au bal, à nos jeux d'assemblée, vous garderez la maison, tandis que nous irons. Avez-vous bien compris, comme il vous fallait être, fidèle à votre époux, faut l'aimer comme vous. Recevez ce bouquet que ma main vous présente. Hélas, vos vains honneurs passeront comme ces fleurs. Cette musique nationale, aussi délicieuse que celle adaptée par Chateaubriand à ma sœur, te souvient-il encore, chantée au milieu d'une petite ville de la Brie champenoise, devait être pour une Bretonne le sujet d'impérieux souvenirs, tant elle peint fidèlement les mœurs, la bonhomie, les sites de ce vieux et noble pays. Il y règne je ne sais quelle mélancolie causée par l'aspect de la vie réelle qui touche profondément. Ce pouvoir de réveiller un moment de choses graves, douces et tristes par un rythme familier souvent gai, n'est-il pas le caractère de ces chants populaires qui sont les superstitions de la musique ? Si l'on veut accepter le mot « superstition » comme signifiant tout ce qui reste après la ruine des peuples et surnage à leur révolution. En achevant le premier couplet, l'ouvrier, qui ne cessait de regarder le rideau de la mansarde, n'y vit aucun mouvement. Pendant qu'il chantait, le second, le calicot, s'agita. Quand ces mots « Recevez le bouquet !» furent dit, apparut la figure d'une jeune fille. Une main blanche ouvrit avec précaution la croisée, et la jeune fille salua par un signe de tête le voyageur au moment où il finissait la pensée mélancolique exprimée par ces deux dernières si simples. « Hélas, nos vains honneurs passeront comme des fleurs. » L'ouvrier montra soudain, en la tirant de dessous sa veste, une fleur d'un jaune d'or très commune en Bretagne, et sans doute trouvée dans les champs de la Brie où elle est rare, la fleur de la jonc. « Est-ce donc vous, Brigaud ?» dit à voix basse la jeune fille. « Oui, Pierrette, oui, c'est moi. Je suis à Paris, je fais mon tour de France, mais je suis capable de m'établir ici, puisque... « Vous y êtes. » En ce moment, une espagnolette grogna dans la chambre de premier étage, au-dessous de celle de Pierrette. La bretonne manifesta la plus vive crainte et dit à Brigaud « Où sauvez-vous ? » L'ouvrier sauta, comme une grenouille effrayée vers le tournant qu'un moulin fait de fer à cette rue qui va déboucher dans la grande rue, l'artère de la basse ville. Malgré sa prestesse et ses souliers ferrés, en retentissant sur le petit pavé de Provins, produisirent un son facile à distinguer dans la musique du moulin et que put entendre la personne qui ouvrait la fenêtre. Cette personne était une femme. Aucun homme ne s'arrache aux douceurs du sommeil matinal pour écouter un troubadour en veste, une fille seule se réveille à un chant d'amour. Aussi était-ce une fille et une vieille fille. Quand elle eut déployé ses persiennes par un geste de chauve-souris, elle regarda dans toutes les directions et n'entendit que vaguement les pas de Brigaud qui s'enfuyait. Y a-t-il rien de plus horrible à voir que la matinale apparition d'une vieille fille laide à sa fenêtre. De tous les spectacles grotesques qui font la joie des voyageurs quand ils traversent les petites villes, n'est-ce pas la plus déplaisante ? Il est trop triste, trop repoussant pour qu'on en rie. Cette vieille fille, à l'oreille si alerte, se présentait, dépouillée des artifices en tout genre qu'elle employait pour s'embellir. Elle n'avait ni son tour de faux cheveux, ni sa collerette. Elle portait cet affreux petit sac en taffetas noir avec lequel les vieilles femmes s'enveloppent l'occiput, et qui dépassait son bonnet de nuit relevé par le mouvement du sommeil. Ce désordre donnait à cette tête l'air menaçant que les peintres prêtent aux sorcières. Les tempes, les oreilles et la nuque, assez peu cachées, laissaient voir leur caractère aride et sec. Leurs rides âpres, se recommandaient par des tons rouges peu agréables à l'œil et que faisait encore ressortir la couleur quasi blanche de la camisole nouée au cou par des cordons vrillés. Les bâillements de cette camisole entr'ouverte montrait une poitrine comparable à celle d'une vieille paysanne peu soucieuse de sa laideur. Le bras décharné faisait l'effet d'un bâton sur lequel on aurait mis une étoffe. Vue à sa croisée, cette demoiselle paraissait grande à cause de la force et de l'étendue de son visage qui rappelait l'ampleur inouïe de certaines figures suisses. Sa physionomie, où les traits pêchaient par un défaut d'ensemble, avait pour principal caractère une sécheresse dans les lignes, une aigreur dans les tons, une insensibilité dans le fond qui saisit de dégoût un physionomiste. Ses expressions alors visibles le modifiaient, habituellement par une sorte de sourire commercial, par une bêtise bourgeoise qui jouait si bien la bonhomie, que les personnes avec lesquelles vivait cette demoiselle pouvaient très bien la prendre pour une bonne personne. Elle possédait cette maison par indivis avec son frère. Le frère dormait si tranquillement dans sa chambre que l'orchestre de l'opéra ne l'eût pas éveillé, et ce, pendant le diapason de cet orchestre célèbre. La vieille demoiselle avança la tête hors de la fenêtre, leva vers la mansarde de ses petits yeux d'un bleu pâle et froid, aux cils courts et plantés dans un bord presque toujours enflé. Elle essaya de voir Pierrette, mais après avoir reconnu l'inutilité de sa manœuvre, elle rentra dans sa chambre par un mouvement semblable à celui d'une tortue qui cache sa tête après l'avoir sortie de sa carapace. Les persiennes se fermèrent et le silence de la place ne fut plus troublé que par les paysans qui arrivaient ou par des personnes matinales. Quand il y a une vieille fille dans une maison, les chiens de garde sont inutiles. Il ne s'y passe pas le moindre événement qu'elle ne le voie, ne le commente et n'en tire toutes les conséquences possibles. Aussi, cette circonstance avait-elle donné carrière à de graves suppositions, ouvrir de ces drames obscurs qui se passent en famille et qui, pour demeurer secrets, n'en sont pas moins terribles, si vous permettez toutefois d'appliquer le mot de drame à cette scène d'intérieur. Pierrette se recoucha pas. Pour elle, l'arrivée de Brigaut était un événement immense. Pendant la nuit, cet Éden des malheureux, elle échappait aux ennemis, aux tracasseries qu'elle avait à supporter durant la journée. Semblable au héros de je ne sais quelle ballade allemande ou russe, son sommeil lui paraissait être une vie heureuse et le jour était un mauvais rêve. Après 3 années, elle venait d'avoir pour la première fois un réveil agréable. Les souvenirs de son enfance avaient mélodieusement chanté leur poésie dans son âme. Le premier couplet, elle l'avait entendu en rêve. Le second l'avait fait lever en sursaut. Au troisième, elle avait douté. Les malheureux sont de l'école de Saint-Thomas. Au quatrième couplet, arrivée en chemise et nu-pieds à la croisée, elle avait reconnu Brigaut, son ami d'enfance. Ah, c'était bien cette veste carrée à petites basques brusquement coupées et dont les poches ballottent à la chute des reins, la veste de drap bleu classique en Bretagne, le gilet de rouennerie grossier, la chemise de toile fermée par un cœur d'or, le grand col roulé, les boucles d'oreilles, les gros souliers, le pantalon de toile bleue écru inégalement déteinte par les longueurs de fil. Enfin, toutes ces choses humbles et fortes qui constituent le costume d'un pauvre breton. Les gros boutons en corne blanche du gilet de la veste firent paraître le cœur de Pierrette. À la vue du bouquet d'ajonc, ses yeux se mouillèrent de larmes, puis une horrible terreur lui comprima dans l'âme les fleurs de son souvenir un moment épanoui. Elle pensa que sa cousine avait pu l'entendre, se levant et marchant à la croisée. Elle devina la vieille fille et fit à Brigaut ce signe de frayeur auquel le pauvre breton s'était empressé d'obéir sans y rien comprendre. Cette soumission instinctive ne peint-elle pas une de ces affections innocentes et absolues comme il y en a de siècle en siècle sur cette terre où elles fleurissent comme l'aloès à l'Isolabella deux ou trois fois en 100 ans? Qui eût vu Brigaut, se sauvant, aurait admiré l'héroïsme le plus naïf du plus naïf sentiment. Jacques Brigaut était digne de Pierrette Lorrain, qui finissait sa 14e année. 2 enfants. Pierrette ne put s'empêcher de pleurer en le regardant lever le pied avec l'effroi que son geste lui avait communiqué. Puis elle revint s'asseoir sur un méchant fauteuil en face d'une petite table au-dessus de laquelle se trouvait un miroir. Elle s'y accouda, se mit la tête dans les mains et resta là, pensive, pendant 1 heure, occupée à se remémorer le marais, le bourg de Père Noël, les périlleux voyages entrepris sur un étang dans un bateau détaché pour elle d'un vieux saule par le petit Jacques, puis les vieilles figures de sa grand-mère, de son grand-père, la tête souffrante de sa mère et la belle physionomie du major Brigaut, enfin toute une enfance sans souci. Ce fut encore un rêve, des joies lumineuses sur un fond grisâtre. Elle avait ses beaux cheveux cendrés en désordre sous un petit bonnet chiffonné pendant son sommeil, un petit bonnet en percale et à ruches qu'elle s'était fait elle-même. De chaque côté des tempes, ils passaient des boucles échappées de leurs papillotes en papier gris. Derrière la tête, une grosse natte aplatie pendait déroulée. La blancheur excessive de sa figure trahissait une de ces horribles maladies de jeune fille à laquelle la médecine a donné le nom gracieux de chlorose et qui prive le corps de ses couleurs naturelles, qui trouble l'appétit et annonce de grands désordres dans l'organisme. Ce tour de cire existait dans toute la carnation. Le cou et les épaules expliquaient, par leur pâleur d'herbe étiolée, la maigreur des bras jetés en avant et croisés. Les pieds de Pierrette paraissaient amollis, amoindris par la maladie. Sa chemise ne tombait qu'à mi-jambe et laissait voir des nerfs fatigués, des veines bleuâtres, une carnation appauvrie. Le froid qu'il atteignit lui rendit les lèvres d'un beau violet. Le triste sourire qui tira les coins de sa bouche, assez délicate, montra des dents d'un ivoire fin et d'une forme menue, de jolies dents, transparentes, qui s'accordaient avec ses oreilles fines, avec son nez un peu pointu mais élégant, avec la coupe de son visage qui, malgré sa parfaite rondeur, était mignonne. Toute l'animation de ce charmant visage se trouvait dans des yeux dont l'iris, couleur tabac d'Espagne mélangé de points noirs, brillait par des reflets d'or autour d'une prunelle profonde et vive. Pierrette avait dû être gaie, elle était triste. Sa gaieté perdue existait encore dans la vivacité des contours de l'œil, dans la grâce ingénue de son front et dans les méplats de son menton court. Ses longs cils se dessinaient comme des pinceaux sur des pommettes altérées par la souffrance. Le blanc, prodigué outre mesure, rendait d'ailleurs les lignes et les détails de la physionomie très pure. L'oreille était un petit chef-d'œuvre et de sculpture. Vous eussiez dit du marbre. Pierrette souffrait de bien des manières. Aussi peut-être voulez-vous son histoire. Eh bien, la voici. La mère de Pierrette était une demoiselle Auffray de Provins, sœur consanguine de Madame Rogron, mère des possesseurs actuels de cette maison. Marié d'abord à 18 ans, M. Auffray avait contracté vers 69 ans un second mariage. De son premier lit était issue une fille unique, assez laide et mariée dès l'âge de 16 ans, un aubergiste de Provins nommé Rogron. De son second lit, le bonhomme Auffray eut encore une fille, mais charmante. Ainsi, par un effet assez bizarre, il eut une énorme différence d'âge entre les deux filles de M. Auffray. Celle du premier lit avait 50 ans, quand celle du second naissait. Lorsque son vieux père lui donnait une sœur, Madame Rogron avait deux enfants majeurs. À 18 ans, la fille du vieillard amoureux fut mariée, selon son inclination, à un officier breton nommé Lorrain, capitaine dans la garde impériale. L'amour rend souvent ambitieux. Le capitaine, qui voulut devenir promptement colonel, passa dans la ligne. Et pendant que le chef de bataillon et sa femme, assez heureux de la pension à eux faite par M. et Mme Auffray, brillaient à Paris ou couraient en Allemagne, au gré des batailles et des paix impériales, le vieil Auffray, ancien épicier de Provins, mourut à 88 ans sans avoir eu le temps de faire aucune disposition testamentaire. La succession du bonhomme fut si bien manœuvrée par l'ancien aubergiste et par sa femme, qu'ils en absorbèrent la plus grande partie et ne laissèrent à la veuve du bonhomme Auffray que la maison du défunt sur la petite place et quelques arpents de terre. Cette veuve, mère de la petite Madame Lorrain, n'avait à la mort de son mari que 38 ans. Comme beaucoup de veuves, elle eut l'idée malsaine de se remarier. Elle vendit à sa belle-fille, la vieille Madame Rogron, les terres et la maison qu'elle avait gagnées en vertu de son contrat de mariage, afin de pouvoir épouser un jeune médecin nommé Néraud, qui lui dévora sa fortune. Elle mourut de chagrin et dans la misère 2 ans après. La part qui aurait pu revenir à Madame Lorrain dans la succession aux frais disparut donc en grande partie et se réduisit à environ 8 000 francs. Le major Lorrain mourut sur le champ d'honneur à Montereau, laissant sa veuve chargée à 21 ans d'une petite fille de 14 mois, sans autre fortune que la pension à laquelle elle avait droit et la succession à venir de M. et Mme Lorrain, détaillants à Penhoth Hall, bourg vendéen, situé dans le pays appelé le Marais. Ces Lorrains, père et mère de l'officier mort, grand-père et grand-mère paternelle de Pierrette Lorrain, vendaient le bois nécessaire aux constructions des ardoises, des tuiles, des faîtières, des tuyaux, etc. Leur commerce, soit incapacité, soit malheur, allait mal et leur fournissait à peine de quoi vivre. La faillite de la célèbre maison Collinet de Nantes, causée par les événements de 1814, qui produisirent une baisse subite dans les denrées coloniales, venait de leur enlever 24 000 francs qu'ils y avaient déposés. Aussi leur belle-fille fut-elle bien reçue. La veuve du major apportait une pension de 800 francs, somme énorme à Penhoël. Les 8 000 francs que son beau-père et sa sœur Rogron lui envoyèrent après 1 000 formalités et entraînées par l'éloignement, elle les confia aux Lorrain en prenant toutefois une hypothèque sur une petite maison qu'il possédait à Nantes, louée 100 écus et qui valait à peine 10 000 francs. Madame Lorrain, la jeune, mourut 3 ans après le second et fatal mariage de sa mère en 1819, presque en même temps qu'elle. L'enfant du vieil Auffray et de sa jeune épouse était frêle, petite et maigre. L'air humide du marais lui fut contraire. La famille de son mari lui persuada pour la garder que dans aucun autre endroit du monde, elle ne trouverait d'un pays plus salin, plus sain ni plus agréable que le Marais, témoin des exploits de Charette. Elle fut si bien dorlotée, soignée, cajolée, que cette mort fit le plus grand honneur aux Lorrains. Quelques personnes prétendent que Brigot, un ancien Vendéen, un de ces hommes de fer qui avait servi sous Charette, sous Mercier, sous le marquis de Montauran et sous le baron du Guénic dans les guerres contre la République, était pour beaucoup dans la résignation de Madame Lorrain la jeune. S'il en fut ainsi, certes, ce serait d'une âme excessivement aimante et dévouée. Tout Penhoël voyait d'ailleurs Brigot, nommé respectueusement le Major, grade qu'il avait eu dans les armées catholiques, passant ses journées, ses soirées dans la salle auprès de la veuve du major impérial. Vers les derniers temps, le curé de Penhoël s'était permis quelques représentations à la vieille dame Lorrain. Il l'avait priée de décider sa belle-fille à épouser Brigot, en promettant de faire nommer le major juge de paix du canton de Penhoël par la protection du vicomte de Kergaouët. La mort de la pauvre jeune femme rendit la proposition inutile. Pierrette resta chez ses grands-parents, qui lui devaient 400 francs d'intérêt par an, naturellement appliqués à son entretien. Ces vieilles gens, de plus en plus impropres au commerce, eurent un concurrent actif et ingénieux contre lequel ils disaient des injures, sans rien tenter pour se défendre. Le major, leur conseil et leur ami, mourut 6 mois après son ami, peut-être de douleur et peut-être de ses blessures. Il en avait reçu 27. En bon commerçant, le mauvais voisin voulut ruiner ses adversaires afin d'éteindre toute concurrence. Il fit prêter de l'argent aux Lorrains sur leur signature, en prévoyant qu'ils le pourraient rembourser, et les força, dans leurs vieux jours, à déposer leur bilan. L'hypothèque de Pierrette fut primée par l'hypothèque légale de sa grand-mère, qui s'en tint à ses droits pour conserver un morceau de pain à son mari. La maison de Nantes fut vendue 9 500 francs, et il y eut pour 1 500 francs de frais. Les 8 000 Lorrains restants revinrent à Madame Lorrain qui les plaça sur hypothèque afin de pouvoir vivre à Nantes dans une espèce de béguinage semblable à celui de Sainte-Périne de Paris et nommé Saint-Jacques, où ces deux vieillards eurent le vivre et le couvert moyennant une modique pension. Dans l'impossibilité de garder avec eux leur petite-fille ruinée, le vieux Lorrain se souvinrent de son oncle et de sa tante, Rogron, auxquels ils écrivirent. Les Rogron de Provins étaient morts. La lettre des Lorrains à la Rogron semblait donc devoir être perdue. Mais si quelque chose ici-bas peut suppléer la Providence, n'est-ce pas la poste aux lettres? L'esprit de la poste, incomparablement au-dessus de l'esprit public, qui ne rapporte pas d'ailleurs autant, dépasse en invention l'esprit des plus habiles romanciers. Quand la poste possède une lettre valant pour elle de 3 à 10 sous, sans trouver immédiatement celui ou celle à qui elle doit le remettre. Elle déploie une sollicitude financière dont l'analogue ne se rencontre que chez les créanciers les plus intrépides. La poste va, vient, furette dans les 86 départements. Les difficultés surexcitent le génie des employés, qui souvent sont des gens de lettres et qui se mettent alors à la recherche de l'inconnu avec l'ardeur des mathématiciens du bureau des longitudes. Ils fouillent tout le royaume. À la moindre lueur d'espérance, les bureaux de Paris se remettent en mouvement. Souvent, il vous arrive de rester stupéfait en reconnaissant les gribouillages qui zèbrent le dos et le ventre de la lettre, glorieuse attestation de la persistance administrative avec laquelle la poste s'est remuée. Si un homme entreprenait ce que la poste vient d'accomplir, il aurait perdu 10 000 francs en voyage, en temps, en argent, pour recouvrer 12 sous. La poste a décidément encore plus d'esprit qu'elle n'en porte. La lettre des Lorrains, adressée à Monsieur Rogron de Provins, décédé depuis un an, fut envoyée par la poste à Monsieur Rogron, son fils, remercié, rue Saint-Denis, à Paris. Un héritier est toujours plus ou moins tourmenté de savoir s'il a bien tout ramassé d'une succession, s'il n'a pas oublié des créances ou des guenilles. Le fils devine tout, même les caractères. Une lettre adressée au vieux Rogron de Provins, mort, devait piquer la curiosité de Rogron fils, à Paris, ou de Mademoiselle Rogron, sa sœur, ses héritiers. Aussi le fils qut-il ses 60 centimes. Les Rogron, vers lesquels le vieux Lorrain, au désespoir de se séparer de leur petite fille, tendait des mains suppliantes, devenaient donc entre les arbitres de la destinée de Priorette. Lorrain, et il est alors indispensable d'expliquer leurs antécédents et leur caractère. Le père Rogron, cet aubergiste de Provins à qui le vieil Auffray avait donné la fille de son premier lit, était un personnage à figure enflammée, à nez veineux, et sur les joues duquel Bacchus avait appliqué ses pampres rougis et bulbeux. Quoique gros, court, et ventripotent à jambes grasses et à mains épaisses, il était doué de la finesse des aubergistes de Suisse auxquels il ressemblait. Sa liberté figure représentait vaguement un vaste vignoble grêlé. Certes, il n'était pas beau, mais sa femme lui ressemblait. Jamais couple ne fut mieux assorti. Rogron aimait la bonne chère et à se faire servir par de jolies filles. Il appartenait à la secte des égoïstes dont l'allure est brutale, qui s'adonnent à leurs vices et font leur volonté à la face d'Israël. Avide, intéressé, peu délicat, obligé de pourvoir à ses fantaisies, il mangea ses grains jusqu'au jour où les dents lui manquèrent. L'avarice resta. Sur ses vieux jours, il vendit son auberge, ramassa, comme on l'a vu, presque toute la succession de son beau-père, et se retira dans la petite maison de la place achetée pour un morceau de pain, à la veuve du père Auffray, la grand-mère de Pierrette. Rogron et sa femme possédaient environ 2 000 francs de rente provenant de la location de 27 pièces de terre situées autour de Provins, et les intérêts du prix de leur auberge vendu 25 000 francs, et la maison du bonhomme Auffray, quoiqu'en fort mauvais état, fut habitée telle quelle par ses anciens aubergistes qui se gardèrent comme la peste d'y toucher. Les vieux rats aiment les lézardes et les ruines. L'ancien aubergiste, qui prit goût au jardinage, empouilla ses économies à l'augmentation du jardin. Il le poussa jusqu'au bord de la rivière, il en fit un carré long encaissé entre deux murailles et terminé par un empierrement où la nature aquatique, abandonnée à elle-même, déployait les richesses de son flore. Au début de leur mariage, ces Rogerons avaient eu de 2 ans en 2 ans une fille et un fils. Tout dégénère, leurs enfants furent affreux, mis en nourrice à la campagne et à bas prix. Ces malheureux enfants revinrent avec l'horrible éducation du village. Ayant crié longtemps et souvent, après le sein de leur nourrice qui allait au champ et qui pendant ce temps les enfermait dans une de ces chambres noires, humides et basses qui servent d'habitation aux paysans français. À ce métier, les traits de ces enfants grossirent, leur voix s'altéra. Ils flattèrent médiocrement l'amour-propre de la mère qui tentait de les corriger de leurs mauvaises habitudes par une rigueur que celle du père convertissait en tendresse. On les laissa courailler dans les cours, écuries et dépendances de l'auberge, ou trotter par la ville. On les fouettait quelquefois, on les envoyait chez leur grand-père au frais, qui les aimait très peu. Cette injustice fut une des raisons qui encouragèrent les Rogerons à se faire une large part dans la succession de ce vieux scélérat. Cependant, le père Rogeron mit son fils à l'école. Il lui acheta un homme, un de ses charretiers, afin de le sauver de la réquisition. Dès que sa fille Sylvie eut 13 ans, il la dirigea sur Paris en qualité d'apprenti dans une maison de commerce. 2 ans après, il expédia son fils Jérôme, Denis, par la même voie. Quand ses amis, ses compères les rouliers ou ses habitués lui demandaient ce qu'il comptait faire de ses enfants, le père Rogeron expliquait son système avec une brièveté qui avait sur celui de la plupart des pères le mérite de la franchise. « Oh, quand ils entreront en âge de me comprendre, je leur donnerai un coup de pied, vous savez où, en leur disant « va faire fortune !» répondait-il en buvant ou s'essuyant les lèvres du revers de sa main. Puis il regardait son interlocuteur en clignant des yeux d'un air fin. « Hé, hé, oh, ils sont pas plus bêtes que moi, » ajoutait-il. « Mon père m'a donné 3 coups de pied, je leur en donnerai qu'un. Il m'a mis 1 louis dans la main, moi je leur en mettrai 10, ils seront donc plus heureux que moi. » Voilà la bonne manière. Eh bien, après moi, ce qui restera, restera. Les notaires sauront bien le leur trouver. Ce serait drôle de gêner pour ces enfants. Les miens me doivent la vie, je les ai nourris, je leur demande rien. Ils sont pas quittes, les voisins. J'ai commencé par être charretier, ça m'a pas empêché d'épouser la fille à ce vieux scélérat de père Auffray. Sylvie Rogeron fut envoyée à 100 écus de pension en apprentissage rue Saint-Denis chez des négociants mis à nés à Provins. 2 années après, elle était au pair. Si elle ne gagnait rien, ses parents ne payaient plus rien pour son logis et sa nourriture. Voilà ce qu'on appelle être au pair rue Saint-Denis. 2 ans après, pendant lesquels sa mère lui envoya 100 francs pour son entretien, Sylvie eut 100 écus d'appointement. Ainsi, dès l'âge de 19 ans, mademoiselle Sylvie Rogeron obtint son indépendance. À 20 ans, elle était la seconde demoiselle de la maison Julliard, marchand de soie en bottes, au verre chinois, rue Saint-Denis. L'histoire de la sœur fut celle du frère. Le petit Jérôme de Nirogron entra chez un des plus forts marchands merciers de la rue Saint-Denis, la maison Guépin aux Trois Quenouilles. Si à 21 ans Sylvie était première demoiselle à 1 000 francs d'appointements, Jérôme Denis, mieux servi par les circonstances, se trouvait à 18 ans premier commis à 1 200 francs chez les Guépin, autres provinois. Le frère et la sœur se voyaient tous les dimanches et les jours de fête. Ils les passaient en divertissements économiques, ils dînaient hors Paris, ils allaient voir Saint-Cloud, Meudon, Belleville, Vincennes. Vers la fin de l'année 1815, ils réunirent leurs capitaux amassés à la sueur de leur front, ou environ 20 000 francs, et achetèrent de Madame Guénée le célèbre fonds de la sœur de famille, une des plus fortes maisons de détail en mercerie. La sœur tint la caisse, le comptoir et les écritures. Le frère fut à la fois le maître et le premier commis, comme Sylvie fut pendant quelque temps sa propre première demoiselle. En 1821, après 5 ans d'exploitation, la concurrence devint si vive et si animée dans la mercerie que le frère et la sœur avaient à peine pu solder leurs fonds et soutenir sa vieille réputation. Quoique Sylvie Rogron n'eût alors que 40 ans, sa laideur, ses travaux constants et un certain air rechigné que lui donnait la disposition de ses traits autant que les soucis, la faisaient ressembler à une femme de 50 ans. À 38 ans, Jérôme Denis Rogron offrait la physionomie la plus niaise que jamais un comptoir ait présentée à des chalands. Son front écrasé, déprimé par la fatigue, était marqué de 3 sillons arides. Ses petits cheveux gris, coupés rares, exprimaient l'indéfinissable stupidité des animaux à sang-froid. Le regard de ses yeux bleuâtres ne jetait ni flamme ni pensée. Sa figure ronde et plate n'excitait aucune sympathie et n'amenait même pas le rire sur les lèvres de ceux qui se livrent à l'examen des variétés du Parisien. Elle attristait. Enfin, s'il était, comme son père, gros et court, ses formes, dénuées du brutal embonpoint de l'aubergiste, accusait dans les moindres détails un affaissement ridicule. La coloration excessive de son père était remplacée chez lui par la flasque lividité particulière aux gens qui vivent dans des arrière-boutiques sans air, dans des cabanes grillées appelées caisses, toujours pliant et dépliant du fil, payant ou recevant, harcelant des commis ou répétant les mêmes choses aux chalands. Le peu d'esprit du frère et de la sœur avait été entièrement absorbé par l'entente de leur commerce, par le droit et avoir, par la connaissance des lois spéciales et des usages de la place de Paris. Le fil, les aiguilles, les rubans, les épingles, les boutons, les fournitures de tailleurs, enfin l'immense quantité d'articles qui composent la mercerie parisienne, avaient employé leur mémoire. Les lettres à écrire et à répondre, les factures, les inventaires avaient pris toute leur capacité. En dehors de leur patrie, ils ne savaient absolument rien. Ils ignoraient même Paris. Pour eux, Paris était quelque chose d'étalé autour de la rue Saint-Denis. Leur caractère étroit avait eu pour champ leur boutique. Ils savaient admirablement tracasser leurs commis, leurs demoiselles, et les trouver en faute. Leur bonheur consistait à avoir toutes les mains agitées comme des pattes de souris sur les comptoirs, maniant la marchandise ou occupées à replier les articles. Quand ils entendaient 7 ou 8 voix de demoiselles et de jeunes gens déglubant les phrases consacrées par lesquels les commis répondent aux observations des acheteurs, la journée était belle, il faisait beau. Quand le bleu de l'éther arrivait à vivait Paris, quand les Parisiens se promenaient en ne s'occupant que de la mercerie qu'ils portaient. Mais au mauvais temps pour la vente, disait l'imbécile patron. La grande science qui rendait Rogron l'objet de l'admiration des apprentis était son art de ficeler, déficeler, reficeler et confectionner un paquet. Rogron pouvait faire un paquet et regarder ce qui se passait dans la rue ou surveiller son magasin dans toute sa profondeur. Il avait tout vu quand, en le présentant à la pratique, il disait « Voilà, madame, ne vous faut-il rien d'autre ?» Sans sa sœur, ce crétin eût été ruiné. Sylvie, elle avait du bon sens et le génie de la vente. Elle dirigeait son frère dans ses achats en fabrique et l'envoyait sans pitié jusqu'au fond de la France pour y trouver un sou de bénéfice sur un article. La finesse que possède plus ou moins toute femme n'étant pas au service de son cœur, elle l'avait portée dans la spéculation. Un fonds à payer. Cette pensée était le piston qui faisait jouer cette machine et lui communiquait une épouvantable activité. Rogron était resté premier commis. Il ne comprenait pas l'ensemble de ses affaires. L'intérêt personnel, le plus grand véhicule de l'esprit, ne lui avait pas fait faire un pas. Il restait souvent ébahi quand sa sœur ordonnait de vendre un article à perte, en prévoyant la fin de sa mode. Et plus tard, il admirait niaisement sa sœur Sylvie. Il ne raisonnait ni bien ni mal, il était incapable de raisonnement. Mais il avait la raison de se subordonner à sa sœur, et il se subordonnait par une considération prise en dehors du commerce. « Elle est mon aînée !» se disait-il. Peut-être une vie constamment solitaire, réduite à la satisfaction des besoins, dénuée d'argent et de plaisir pendant la jeunesse, expliquerait-elle aux physiologistes et aux penseurs la brute expression de ce visage, la faiblesse de cerveau, l'attitude niaise de ce mercier. Sa sœur l'avait constamment empêché de se marier, en craignant peut-être de perdre son influence dans la maison, en voyant une cause de dépense et de ruine dans une femme infailliblement plus jeune et sans aucun doute moins laide qu'elle. La bêtise a deux manières d'être. Elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable, mais la bêtise de Rogron était parleuse. Ce détaillant avait pris l'habitude de gourmander ses commis, de leur expliquer les minuties du commerce de la mercerie en demi-gros, en les ornant des plates plaisanteries qui constituent le bagout des boutiques. Ce mot qui désignait autrefois l'esprit de répartie stéréotypé a été détrôné par le mot soldatesque de blague. Rogron, forcément écouté par un petit monde domestique, Rogron, content de lui-même, avait fini par se faire une phraséologie à lui. Ce bavard se croyait orateur. La nécessité d'expliquer aux chalands ce qu'ils veulent, de sonder leurs désirs, de leur donner envie de ce qu'ils ne veulent pas, délie la langue du détaillant. Ce petit commerçant finit par avoir la faculté de débiter des phrases où les mots ne présentent aucune idée et qui ont du succès. Enfin, il explique aux chalands des procédés peu communs. De là, lui vient je ne sais quelle supériorité momentanée sur sa pratique. Mais une fois sorti des mille et une explications que nécessitent ces mille et un articles, il est relativement à la pensée comme un poisson sur la paille au soleil. Rogron et Sylvie, ces deux mécaniques subrepticement baptisées, n'avaient ni en germe ni en action les sentiments qui donnent au cœur sa vie propre. Aussi, ces deux natures étaient-elles excessivement filandreuses et sèches, endurcies par le travail, par les privations, par le souvenir de leurs douleurs pendant un long et rude apprentissage. Ni l'un ni l'autre, ils ne plaignaient aucun malheur. Ils étaient non pas implacables, mais intraitables à l'égard des gens embarrassés. Pour eux, la vertu, l'honneur, la loyauté, tous les sentiments humains consistaient à payer régulièrement ses billets. Tracassiers, sans âme et d'une économie sordide, le frère et la sœur jouissaient d'une horrible réputation dans le commerce de la rue Saint-Denis. Dans leurs relations avec Provins, où ils allaient 3 fois par an, aux époques où ils pouvaient fermer leur boutique pendant 2 ou 3 jours, ils eussent manqué de commis et de filles de boutique. Mais le père Rogron expédiait à ses enfants tous les malheureux voués au commerce par leurs parents. Il faisait pour eux la traite des apprentis et des apprenties dans province, où il vantait par vanité la fortune de ses enfants. Et chacun, appâté par la perspective de savoir sa fille ou son fils bien instruit et bien surveillé, par la chance de le voir succédant un jour au fils Rogron, envoyait l'enfant qui le gênait au logis dans une maison tenue par ses deux célibataires. Mais dès que l'apprenti et l'apprentie à 100 écus de pension trouvait moyen de quitter cette galère, il s'enfuyait avec un bonheur qui accroissait la terrible célébrité des rognons. L'infatigable aubergiste leur découvrait toujours de nouvelles victimes. Depuis l'âge de 15 ans, Sylvie Rogron, habituée à se grimer pour la vente, avait deux masques: la physionomie aimable de la vendeuse et la physionomie naturelle aux vieilles filles ratatinées. Sa physionomie acquise était d'une mimique merveilleuse. En elle, tout souriait, sa voix devenait douce et pateline. Elle jetait un charme commercial à la pratique. Sa vraie figure était celle qui s'est montrée entre les deux persiennes entrebâillées. Elle eût fait fuir le plus déterminé des Cosaques de 1810, qui cependant aimait toute espèce de française. Quand la lettre des Lorrain arriva, les Rogron, en deuil de leur père, avaient hérité de la maison à peu près volée à la grand-mère de Pierrette, puis des terres acquises par l'ancien aubergiste, enfin de certains capitaux provenant de prêts usuraires hypothéqués sur des acquisitions faites par des paysans que le vieil ivrogne espérait exproprier. Leur inventaire annuel venait d'être terminé. Le fonds de la sœur de famille était payé. Les Rogron possédaient environ 60 000 francs de marchandises en magasin, une quarantaine de mille francs en caisse ou dans le portefeuille, et la valeur de leur fonds. Assis sur la banquette en velours d'Utrecht, vert rayé de bandes unies, et plaqué dans une niche carrée derrière le comptoir, en face duquel se trouvait un comptoir semblable pour leur première demoiselle, le frère et la sœur se consultaient sur leurs intentions. Tout marchand aspire à la bourgeoisie. En réalisant leurs fonds de commerce, le frère et la sœur devait avoir environ 150 000 francs, sans comprendre la succession paternelle. En plaçant sur le grand livre les capitaux disponibles, chacun d'eux aurait 3 ou 4 000 livres de rente, même en destinant à la restauration de la maison paternelle la valeur de leurs fonds qui leur serait payée sans doute à terme. Ils pouvaient donc aller vivre ensemble à Provins dans une maison à deux. Leur première demoiselle était la fille d'un riche fermier de Donne-Marie, chargé de 9 enfants. Il avait dû les pourvoir chacun d'un état, car sa fortune, divisée en 9 parties, était bonne chose pour chacun d'eux. En 5 années, ce fermier avait perdu 7 de ses enfants. Cette première demoiselle était donc devenue un être si intéressant que Rogron avait tenté, mais inutilement, d'en faire sa femme. Cette demoiselle manifestait pour son patron une aversion qui déconcertait toute manœuvre. D'ailleurs, Mademoiselle Sylvie s'y prêtait peu, s'opposait même au mariage de son frère et voulait faire leur successeur d'une fille si rusée. Elle ajournait le mariage de Rognon après leur établissement à Provins. Personne parmi les passants ne peut comprendre le mobile des existences cryptogramiques de certains boutiquiers. On les regarde, on se demande « Mais de quoi, pourquoi vivent-ils? Mais que deviennent-ils? D'où viennent-ils ?» On se perd dans les riens en voulant se les expliquer. Pour découvrir le peu de poésie qui germe dans ses têtes et vivifie ses existences, il est nécessaire de les creuser. Mais on a bientôt trouvé le teuf sur lequel tout repose. Le boutiquier parisien se nourrit d'une espérance plus ou moins réalisable, et sans laquelle il périrait évidemment. Celui-ci rêve de bâtir ou d'administrer un théâtre, celui-là tant honneurs aux honneurs de la mairie, tel à sa maison de campagne à 3 lieues de Paris, un soi-disant parc où il plante des statues en plâtre colorié, où il dispose de jets d'eau qui ressemblent à un bout de fil et où il dépense des sommes folles. Tel autre rêve les commandements supérieurs de la garde nationale. Provins, ce paradis terrestre, excitait chez les deux merciers le fanatisme que toutes les jolies villes de France inspirent à leurs habitants. Disons-le à la gloire de la Champagne, cet amour est légitime. Provins, une des plus charmantes villes de France, rivalise le Frangistan et la vallée de Cachemire. Non seulement elle contient la poésie de Saadi, l'Homère de la Perse, mais encore elle offre des vertus pharmaceutiques à la science médicale. Des croisés rapportèrent les roses de Jéricho dans cette délicieuse vallée où, par hasard, elles prirent de qualités nouvelles sans rien perdre de leur couleur. Provins n'est pas seulement la Perse française, elle pourrait encore être Bade, Aix, Bath. Elle a des eaux. Voici le paysage revu d'année en année qui, de temps en temps, apparaissait aux deux merciers sur le pavé boueux de la rue Saint-Denis. Après avoir traversé les plaines grises qui se trouvent entre La Ferté-Gaucher et Provins, vrai désert mais productif, un désert de froment, vous parvenez à une colline. Et tout à coup, vous voyez à vos pieds une ville arrosée par 2 rivières. Au bas du rocher s'étale une vallée verte pleine de lignes heureuses d'horizons fuyants. Si vous venez de Paris, vous prenez Provins en long. Vous avez cette éternelle grande route de France qui passe au bas de la côte en la tranchant, et douée de son aveugle, de ses mendiants, lesquels vous accompagnent de leur voix lamentable quand vous vous visitez d'examiner ce pittoresque pays inattendu. Si vous venez de Troyes, vous entrez par le pays plat. Le château, la vieille ville et ses anciens remparts sont étagés sur la colline. La jeune ville s'étale en bas. Il y a le haut et le bas Provins. D'abord une ville aérée, à rues rapides, à beaux aspects, environnée de chemins creux, ravinés, meublés de noyers et qui criblent de leurs vastes ornières la vive arête de la colline. ville silencieuse, proprette, solennelle, dominée par les ruines imposantes du château. Puis une ville à moulins, arrosée par la Voulzie et la Durtain, deux rivières de Brie, menues, lentes et profondes. Une ville d'auberges, de commerces, de bourgeois retirés, sillonnée par les diligences, par les calèches et le roulage. Ces deux villes, ou cette ville, avec ses souvenirs historiques, la mélancolie de ses ruines, la gaieté de sa vallée, ses délicieuses ravines pleines de haies échevelées et de fleurs, sa rivière crénelée de jardins, excitent si bien l'amour de ses enfants qu'ils se conduisent comme les Auvergnats, les Savoyards et les Français. S'ils sortent de province pour aller chercher fortune, ils y reviennent toujours. Le proverbe « mourir au gîte fait pour les lapins et les gens fidèles » semble être la devise des Provinois. Aussi les deux Rogron ne pensaient-ils qu'à leur cher Provins. En vendant du fil, le frère revoyait la haute ville. En entassant des papiers chargés de boutons, il contemplait la vallée. En roulant ou déroulant du padoux, il suivait le cours brillant des rivières. En regardant ses casiers, il remontait les chemins creux où jadis il fuyait la colère de son père pour venir y manger des noix et y gober des mûrons. La petite place de Provins occupait surtout sa pensée. Il songeait à embellir sa maison, il rêvait à la façade qu'il voulait reconstruire, aux chambres, au salon, à la salle de billard, à la salle à manger, au jardin potager dont il faisait un jardin anglais, avec boulingrins, grottes, jets d'eau, statues, etc. Les chambres où dormaient le frère et la sœur au deuxième de la maison, à trois croisées et à six étages, hautes et jaunes comme ayant la tente rue Saint-Denis, étaient sans autre mobilier que le strict nécessaire. Mais personne à Paris ne possédait un plus riche mobilier que ce mercier. Quand il allait par la ville, il restait dans l'attitude des Tchériakis, regardant les beaux meubles exposés, examinant les draperies dont il remplissait sa maison. Et au retour, il disait à sa sœur: ben, j'ai vu dans telle boutique tel meuble de salon qui nous irait bien. Mais le lendemain, il en achetait un autre, et toujours. Il regorgeait le mois courant les meubles du mois dernier. Le budget n'aurait pas payé ses remaniements d'architecture. Il voulait tout et donnait toujours la préférence aux dernières inventions. Quand il contemplait les balcons des maisons nouvellement construites, quand il étudiait les timides essais de l'ornementation extérieure, il trouvait les moulures, les sculptures, les dessins déplacés. Ah, oh, se disait-il, ces belles choses feraient bien mieux à Provins que là. Lorsqu'il ruminait son déjeuner sur le pas de la porte, adossé à sa devanture, l'œil hébété, le mercier voyait une maison fantastique, dorée par le soleil de son rêve. Il se promenait dans son jardin. Il y écoutait son jet d'eau retombant en perles brillantes sur une table ronde en pierre de liais. Il jouait à son billard, il plantait des fleurs. Si sa sœur était la plume à la main, réfléchissant et oubliant de gronder les commis, elle se contemplait, recevant les bourgeois de Provins. Elle se mirait, ornée de bonnets merveilleux, dans les glaces de son salon. Le frère et la sœur commençaient à trouver l'atmosphère de la rue Saint-Denis malsaine, et l'odeur des boues de la halle leur faisait désirer le parfum des roses de Provins. Ils avaient à la fois une nostalgie et une monomanie contrariées par la nécessité de vendre leur dernier bout de fil, leur bobine de soie et leurs boutons. La terre promise de la vallée de Provins attirait d'autant plus ces Hébreux qu'ils avaient réellement souffert pendant longtemps et traversé haletants les déserts sablonneux de la mer Cerie.